Aber schön sind sie, wie sie weiß und hell an mir vorüberfliegen. Ach, ich bleibe liegen.
Ces nuages ne sont rien, trois fois rien, mais comme ils sont beaux, lorsqu'ils volent blancs et vite devant moi, mais moi, je reste couchée.
Surpris par la nuit.
Fiction du modèle. Jean-Jacques Schulle, Ingrid Cavem. Une émission de Patrick Amine et Jacques Taroni. Jean-Jacques Schulle est l'auteur de trois livres. Rose poussière, 1972. Telex numéro 1, 1976. Ingrid Cavem, septembre 2000.
Elle était entrée sur scène légèrement et avec une aisance parfaite, et tout s'ordonna autour d'elle. L'espace semblait à son service. Charles la regardait et il se disait « C'est avec elle, avec ça, cet animal que je vis. » Cet après-midi encore, il lisait le journal et elle, en t-shirt et jeans, elle essayait tranquillement quelques notes, pyrolunaires. Et elle avait soudain monté de deux octaves en un instant, dans un fantastique rayon de lumière. Fulgurant. Ça lui avait rappelé une brusque accélération d'un moteur de Formule 1 dans la ligne droite du port, à des essais d'un Grand Prix de Monaco auquel il avait assisté. Il n'avait pas vu grand-chose, mais ce bruit, quand on passe quatre vitesses en quelques secondes, est plutôt non humain. Comme ça, sur le sofa, en t-shirt, c'était plus impressionnant, inattendu, que sur une scène. C'était sauvage. Ils étaient ensuite revenus à une conversation tranquille, comme si de rien n'était. Elle redevint très calme, elle était redescendue. Assise sur le sofa grenat. Une couleur vive que Charles n'aimait guère. Lui, il préférait les non-couleurs. Gris, blanc, noir. D'ailleurs, pourquoi le blanc non-couleur? C'est comme le silence en musique. C'est un temps musical aussi. Ça compte, le silence. Voilà. Il vivait avec une chanteuse. Une nuit, qu'il marchait dans la rue à Berlin, il était tombé nez à nez avec son visage immense, 2 mètres sur 2, une affiche sur le Kurfürstendamm. Et il s'était dit, c'est curieux, c'est elle et une autre.
C'est une biographie, oui. Où est la frontière entre la biographie et le roman? Où est la frontière entre le réalisme et ce qu'on appelle la fiction? Où est la frontière entre le rêve et la réalité? Je n'en sais, à vrai dire, pas grand-chose. Et pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est dans tous les cas et dans tous les domaines, cette zone frontière, cette limite, cette twilight zone, ce que j'appellerais la colure, pour employer encore un terme de cinéma, entre ces deux choses. Je repense à une phrase de Paul Claudel dans son journal, un petit passage de son journal. Il était ambassadeur en Amérique du Sud, je crois que c'était au Brésil, et il est allé assister au ballet russe à l'époque, donc à la fin des années 20. Et Nijinsky, donc, était sur scène. Monsieur l'ambassadeur Paul Claudel l'autorisation d'aller en coulisses. Et à la fin d'un des ballets de Diaghilev, Nijinsky s'est donc terminé son ballet, s'est dirigé vers les coulisses, et Claudel parle de ce moment indescriptible où il s'est arrêté de danser, mais où il ne marchait pas encore, et où il était exactement dans cette zone-là, qui est donc entre la danse et la marche. On pourrait généraliser, dire que c'est aussi bien entre la poésie et la prose. J'ai montré dans le livre Ingrid Cavan en train, assez longuement, c'est des passages les plus longs, en train de répéter dans trois décors différents d'ailleurs, au bord de l'océan, dans un terrain vague allemand où elle avait déjà passé son enfance, et puis dans la 5e avenue à New York. Comme elle le fait souvent, c'est-à-dire elle aime beaucoup répéter en marchant dans la rue, ce qui ne veut pas dire qu'elle chante très fort. Elle dit toujours qu'on peut chanter en silence. Ça, les muscles s'imprègnent des notes, il y a une sorte de mouvement des cordes vocales. Et donc elle ne chante pas, on n'entend jamais chanter, mais elle répète souvent sans qu'on entende rien. Et donc elle fait ça dans ces trois endroits, et elle répète Schoenberg. Et j'ai pris Schoenberg d'abord parce qu'il se trouve qu'elle a beaucoup travaillé Schoenberg, et ensuite parce que je le dis, Schoenberg disait que sa musique était une musique de prose. Et Schoenberg avait trouvé ce mot pour qualifier sa musique à 12 tons, et déjà avant, je crois, le Pierrot Lunaire, qui précède la musique à 12 tons, qui est le premier pas vers la musique à 12 tons, il avait utilisé ce mot de Sprachgesang, ou de musique de prose, de Sprachgesang, qui signifie chanter, parler. Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est un peu moins de l'art? Est-ce que c'est... voilà. Ce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est plusieurs choses. C'est une biographie, c'est une chronique, c'est un peu de la poésie. J'aime bien tout ce mélange de genres. C'est même, à vrai dire, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire cohabiter, d'associer des choses que ordinairement on associe peu, et d'essayer de leur trouver une ligne, un fil rouge, une ligne sans que ce soit un pot pourri ou quelque chose de trop éclaté. Je l'avais moins bien réussi, me semble, dans ces petites choses que j'avais fait il y a maintenant fort longtemps, et je pense avoir un peu mieux fait maintenant parce que j'avais mon fil rouge qui était la vie de cette femme d'exception qui est Ingrid Cavan. It might have ended, why then the start? Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty heart. J'ai remarqué là les derniers jours que je suis assez convaincue de pouvoir lire le livre dans quelques semaines. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu en partie, j'ai lu des passages pendant que Jean-Jacques a écrit. Mais là, c'était pendant une espèce de travail. Mais je suis sûre, dans quelques temps, que je pourrai le lire, comme il s'agirait d'une autre. Mais ça grâce au style de Jean-Jacques, la forme. Et comme entre nous, mes amis et moi, on pense que c'est la forme qui fait la chose qui est plus important que le contenu. Comme Nietzsche dit, inclut la vie. Alors on est d'accord que c'est lisible pour moi aussi comme absolument un roman, une poésie qui est quelque part à côté de la vie. Mais, bizarrement, et ce qui arrive souvent avec des très fortes poésies ou écritures,
ça devient beaucoup plus vital et inspirant que des fois les passages de la vie elle-même. Voilà, c'est une beauté que Jules a fait comme cadeau à beaucoup de monde qui ont déjà appelé, qui ont dit c'est un cadeau.
C'est quelqu'un, si on prend, bon, puisque j'ai suivi ça avec elle, pour raconter aussi sa vie, donc c'est aussi une biographie en fait, également, une biographie masquée, une biographie éclatée, mais c'est aussi une biographie de la vie de quelqu'un. Et donc si on prend depuis le début, elle a une éducation catholique forte, donc elle chante très vite, elle chante de l'orgue à l'église, elle chante s'accompagnant de l'orgue à l'église, donc elle, musique d'église. Bach, elle chante le choriste, elle chante avec Schweitzer également à l'église protestante. Enfin, bon, elle chante beaucoup comme petit enfant des chants religieux. Elle écoute à l'âge de 15, 16, 17 ans, elle écoute tout le temps à longueur de journée Maria Callas, tout le temps, Elvis Presley, Edith Piaf. Je cite dans l'ordre tout ce qu'elle a écouté et qu'on retrouve de façon étonnante. À un moment ou à un autre, si on regarde son tour de chant, on retrouve tout ça, elle n'a rien oublié. Elvis Presley. Ensuite, effectivement, Bert Brecht, le cabaret allemand, en tant qu'allemand, bien entendu, elle ne peut pas ignorer Brecht. Weil, on n'en parle pas, bien sûr, Brecht Weil, l'idée de cabaret allemand. Et puis la chansonnette la plus triviale, la plus vulgaire, la petite chansonnette qu'on entend à la radio, ce que les Allemands appellent le Schlag, qui est la, je sais pas, Evelyn, passe-moi l'éponge, Evelyn, fais-moi de l'église aussi, associée à la musique d'église, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et puis quoi encore?
Comme dans tous les domaines, tout doit être plus propre, plus simpliste, plus clair. Même les sophistications doivent avoir doivent tomber dans une espèce de cliché. Il faut dire, j'avais une chance dans ma famille que toutes les musiques, déjà dans mon enfance, avaient la même valeur. Est-ce que c'était une petite rengaine, une berceuse, un air d'opéra, Bach, etc. C'était sur la même... On faisait la musique, on faisait des différentes musiques avec la même joie et la même insistance d'essayer de faire des exercices avec pour s'améliorer. Mon père a toujours fait des exercices de piano et c'était normal de mélanger tout ça et avoir un respect devant tous les basseurs, bassesses et auteurs de la même façon. Ça, c'était une chance. Après, il y avait cette époque qui a donné cette chance que je pouvais faire une potpourri, une espèce de potpourri. Mais très vite, ce qui m'a intéressée moi-même, bien sûr, c'était une structure, un plaisir d'une ligne que j'essaie toujours de trouver qui lit tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je sais à chaque fois quelle est la ligne, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une liaison avec le temps du moment dans lequel je vis. Et c'est intéressant chaque fois. Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais je vais y arriver. Je vais essayer pour mes prochains concerts de lier tout ça à maintenant.
Sunny sky, I see you now. Soft music on the breeze, singing through the cherry trees, dream of delight. You and the tropic night. I found the rest on the eastern
and petit addendum. Mélangé, les mélanges. Et elle-même, d'ailleurs, pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Pourquoi la vie, cette femme d'exception, qui est Ingrid Cavan, dont le travail sur scène provoquait des échos dans ses préoccupations qui sont les miennes, donc de tout mélanger. Parce que fait-elle sur une scène ? Quelle est son originalité sur scène ? En dehors du fait qu'elle est une chanteuse virtuose, beaucoup de technique, beaucoup de présence, une espèce d'aura parce qu'elle vient du cinéma, quelle est sa véritable originalité sur scène? C'est la suivante, c'est quelqu'un qui très vite, très tôt, la première, après ça on a essayé un tout petit peu de le copier, dans le tour de chant qu'elle avait donné à Paris lorsqu'elle est arrivée, a mélangé immédiatement le sacré et le profane, le sérieux et le frivole, le tragique et le grotesque. C'était quelqu'un qui, dans la vie, comme sur scène, a cette capacité, qui rappelle la capacité de certains bons écrivains, d'anoblir les choses vulgaires. Voilà. Voilà aussi ce qui explique pourquoi c'est la vie de cette femme que j'ai retracée et pas celle d'une autre. C'est pas simplement parce que c'est une femme qui partage avec qui, comme on dit, je partage ma vie. C'est parce que ça trouvait des échos dans ce que je souhaitais écrire.
Amour. Tous les jours.
Là-bas. Seul au premier rang, dans l'angle sur la gauche, sur un strapontin, une très jeune fille attentive semblait fascinée, rivée au moindre mouvement de la chanteuse. Charles en avait rencontré des comme ça, 17, 20 ans. Une lui avait dit, Ingrid, c'est la Porsche des chanteuses. Une autre, je la remercie d'exister. Elle voyait tout de suite qu'il s'agissait d'autre chose que d'un chant. Une tournure d'esprit, une suggestion, déjà un peu de la proposition d'une manière d'être. Une très belle voix, une actrice de cinéma sur scène, oui bien sûr, mais pas que ça. C'était qu'elle s'offrait, totalement, et était seule, totalement, avec souveraineté. Et la fille du premier rang, voilà ce qu'elle n'ose faire ou dire. Ce qu'elle ne sait pas qu'elle veut dire confus en elle. Un allant, une audace et des manières mises en forme. Voilà, c'est ça. Je me sens comme ça à l'intérieur. Ça lui donne du courage, ça la renforce. Elle se sent représentée. Charles, qui était assis sur l'aile droite, quatre rangs derrière, l'observait là-bas, au bout de la longue diagonale de profil. Bras enserrés autour des genoux, ramenés sous le menton, une jambe repliée sous elle, le pied glissé sur le fauteuil, elle souriait sans arrêt, un sourire complice d'adhésion qui fondait parfois dans un rire. Elle faisait partie d'une génération dont, selon un sondage Ipsos, 70% reconnaissaient mieux le logo, l'arche dorée du McDonald's que la croix chrétienne, dont 45% ne savent pas qui est Hitler, génération X, Blank Generation, sans mémoire. Et alors ? Ça avait ses inconvénients et aussi ses avantages. Une tournure d'esprit visible dans un champ, dans un corps.
Il faudrait tout dire, parce qu'autrement, ça ne valait pas la peine de faire avec quelqu'un qui me connaît quand même et qui a accepté une femme comme moi, avec tout ça, cette côté sauvage et des fois violente et pas très rassurante, et qui tombe des fois dans le bas-fond, mais lui aussi, et qui est pas... il avait toujours le courage d'avoir confiance à cette espèce de femme qui au même temps aspire tout d'un coup à une sophistication, à une chose, ou même dans le domaine de l'homme, de la pensée assez logique, presque mathématicienne, toutes ces choses qui me plaisent. Il fallait tenir, et il a eu beaucoup de confiance pendant longtemps, et il a eu aussi de moi le j'ai dit non, tu es écrivain, mais quand il dit oh non, je m'en fous, je suis pas, non, j'ai écrit Rose Poussière les deux. J'ai dit mais je te vois chaque jour écrire sur les poux, mais c'est pour mon plaisir. Bon, j'ai poussé quand même, et il a commencé un autre roman, et c'est là où j'étais très très content, ravie. Mais tout d'un coup, il n'a pas terminé, il a commencé à écrire sur moi. Bon. Et là, on ne peut pas dire j'aime le livre, j'aime l'écriture, j'aime la poésie, j'aime ça, et dire après, ah non, attention, là, je ne te dis pas. Non, ce n'est pas possible, c'est parce que comme dans toute poésie, il s'agit de vérité, alors que je donne au moins cette petite truc là, bon, ça ne vaut pas la peine d'avoir honte de ça vis-à-vis une écriture. Voilà. Et ça, j'ai pas regretté parce que c'est tombé vraiment dans une structure magnifique. C'est devenu une petite symphonie sur une femme un peu, voilà, entre sauvage et têtue dans l'artifice. Et je suis ravie. Bon.
Vous préférez qui?
Elle. Ah oui, je l'adore. Elle, c'est bien modèle. Elle. Ah oui, elle, j'aime
la
bien.
La fiction
hein.
Du modèle.
Hein?
La fiction du modèle.
Oui. Non, mais... j'aime beaucoup cette petite... Elle est restée un peu... je sais pas, on sait pas tout. Et elle est drôle. Non. J'aimerais comme ça, oui. Mais moi, des fois, je tombe dans les... Et je deviens quand même, malheureusement, des fois un peu lourd et idiot. Et non. Non, je préférais.
Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nervure du système imaginaire déployé aujourd'hui par Ingrid Cavan est évidemment trouvable dans Rose Poussière et Telex, et que l'apprentissage de la commutation de la lecture instantanée de la vie et des informations peut donner avec le temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il a fallu autant de temps, mais le temps ne compte pas, le temps tombe à pic vertical quand il faut, pour faire le portrait de toutes ces années-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire de ces années-là? Ça veut dire 30 ans. Hein. En Allemagne... qu'est-ce qu'on dirait, oui, de plomb. En France, c'est de béton. En Italie, c'est l'ensanglantement permanent. Donc, y aurait-il eu pendant 30 ans en Europe une terreur telle, intériorisée, chez les différents acteurs sociaux, comme on dit stupidement aujourd'hui, mais ce qui prouve bien que le spectacle est très avancé dans sa décomposition, pour que l'histoire de ces 30 dernières années ait donné si peu de livres importants.
Autrement dit, parce que tout simplement, l'histoire ne se fait que de façon journalistique, épisodique et de façon très superficielle. On n'a pas vraiment de corps surgi de cette histoire. Alors Ingrid Cavan, c'est un de ces corps-là, miraculeusement, il n'y a pas d'autre adverbe employé, sauvé d'une catastrophe qui commence avec sa naissance, début du livre, et qui se poursuit dans un long épisode de terreur. Ce long épisode de terreur a sa contrepartie absolument enchantée, féerique. Pendant que la terreur se mettait à bouger partout en Europe, il y a eu des vies qui ont échappé au raidissement, au durcissement, qui ont vécu, qui ont voyagé, etc. Alors, que Schulz soit à la fois le reporter, le peintre, le romancier de cette affaire, ça me paraît en effet dû à ses débuts et à son silence. Les deux, combinés. Il n'y avait pas grand-chose à dire pendant ce temps-là, qui est peut-être un temps qui n'appartient qu'à ceux qui l'auront vécu durement et dans une quasi-clandestinité, même si elle apparaît dans des concerts. C'est une vie très étrange. Je partage de ce point de vue, cette expérience latérale, tout à fait clandestine de l'existence. Il y a très très peu de, je crois, d'écrivains ou d'artistes qui l'auront vraiment vécu comme une maturité. Il y a eu des grands écrivains, enfin, il était déjà jeune, âgé. Il a fait déjà son œuvre la plus importante avant. Qu'est-ce qu'il y a depuis 30 ans? Faisons les comptes. Pas grand-chose. On peut dire de mort, bien entendu. Et pourquoi il y a si peu? Voilà, ce sont les questions intéressantes à poser à propos, me semble-t-il, de l'apparition de ce livre.
Rose Poussière, 1972. Il y a parfois d'illustres inconnus. Miss Z. Zouzou, la danseuse, c'est celle-là, là-bas, avec un drapeau anglais comme mini-jupe. La plus mini de Paris. Quand elle va à Londres, elle habite chez George Harrison, c'est Pariscope qu'il dit. Maigre, blanche, froide, souriante, et scandant nettement ses paroles, Zazou Zoulou, sauvage et sophistiqué. Je suis le sosie de Marlon Brando. À peine arrivée au club princesse du quartier de la Bastille, où elle dort la journée, descendant, détachée et grêle, les quelques marches en étroit colimaçon recouvertes de velours grenat, comme si c'était le grand escalier du casino de Paris, ou un hasardeux jeu de loi. Look the way she walks, hear the way she talks, est légère. Miss Sed 2. Les paupières et cernes inférieures, comme cousues. Le nez, comme cassé. La bouche, comme peinte. Ou greffé. Miss Z3. Des fils et pincettes reliés à des électrodes sont attachés à ses poignets et à ses chevilles pendant 90 minutes, fragiles et synthétiques. Miss Z4. Ouais.
Oh, you.
Josiane Savigno.
Le fait que ce soit un roman est aussi ancré dans la description d'une certaine société des années 70, d'un moment où des gens ont essayé d'inventer quelque chose qui serait appelé la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, je crois qu'après cette fracture incroyable des années 40-45, il y a eu évidemment la libération, où il y a eu une espèce de flambée, Saint-Germain-des-Prés, une époque dont aussi on peut avoir la nostalgie si on ne l'a pas vécue. Et puis au cours des années 60 et des années 70, des gens ont essayé de reconstruire quelque chose d'un peu plus stable que l'explosion de la libération. Mais je crois que c'était peut-être une tentative désespérée qui a été très vite recouverte par les années 80, je dirais les années tapis, pour faire vite en France, les années des gagneurs, les années qui aboutissent à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais enfin bon, le XXe siècle se termine, espérons que le XXIe va réinventer quelque chose. Mais je crois qu'un des, une des qualités, plus que qualité, une des choses qui est bouleversante dans ce livre, c'est qu'il brasse tellement de choses qu'on peut en parler avec 25 entrées. Et en effet, c'est aussi un livre sur l'impossibilité d'être allemand après 1945, et dans laquelle se sont débattus des gens magnifiques comme Fassbinder, et lié à ça, la reprise d'une tradition très allemande, d'un Berlin mort à jamais, qui est le Berlin de la première moitié du XXe siècle, dont en effet Ingrid Cavan est une héritière. Et il y a dans le film de très beaux passages sur cette espèce de transmission d'une autre femme qui a incarné une figure du cabaret allemand à des jeunes de l'époque qui sont Ingrid Cavan et des filles de sa génération. Je ne partage pas du tout la vision close, rétrécie, fermée du roman qu'on veut essayer d'imposer en France depuis quelque temps. Alors, vous savez, dans la critique, on lit tout le temps, c'est pas un roman, c'est un essai, parce qu'il y a des passages philosophiques ou que ça a une visée encyclopédique. Alors là, ce ne serait pas un roman parce que ce serait plus une biographie ou des souvenirs ou des mémoires. Moi, je pense qu'il y a des objets qui s'appellent littérature et puis d'autres qui ne s'appellent pas littérature. Et le texte de Jean-Jacques Chou, c'est hyperboliquement de la littérature. Je crois que c'est... je ne sais pas comment on peut le qualifier comme ça oralement, sans écrire une thèse dessus. C'est à la fois limpide, extrêmement beau, très touchant. Je crois que c'est une écriture justement qui ne fait aucun effet. Donc qui... moi, en tout cas, personnellement, je ne vais pas parler de manière générale, j'aime pas trop ces généralités. Les écritures qui m'émeuvent, c'est ça, c'est des écritures qui ne font pas d'effet et puis qui n'abusent pas des phrases avec 45 qui, que, quoi, etc., dont sont spécialistes un certain nombre de pseudo-écrivains français. Ce qui m'a vraiment étonnée et qui m'a surprise moi-même, c'est que finalement, la lecture professionnelle fait que, même si on est parfois très intéressé par des livres, on est rarement bouleversé, qu'on est rarement assez public, j'allais dire, assez redevenu lecteur privé pour se laisser toucher. Et dans ce livre-là, dès les premières pages, j'ai su que j'allais pas m'arrêter et que j'étais vraiment touchée personnellement. Mais sans doute parce qu'il parle aussi de choses qui me touchent personnellement, qui sont les rapports de... privé qu'on peut entretenir avec une personne qui appartient à d'autres parce qu'elle se produit sur une scène, et que sur scène, en particulier les chanteuses, il y a des gens qui sont seuls sur une scène face à un public avec lequel elles entretiennent des rapports très, très passionnels, ce qui était le cas d'Ingrid Cavan, ce qui est le cas d'autres chanteuses, ce qui est le cas de Barbara, et ce qui est le cas de Juliette Gréco, par exemple, que je connais plutôt plus personnellement que les autres. Et c'est très compliqué de savoir quel rapport privé on a avec cette personne qui tout d'un coup a une intimité folle avec des gens anonymes et qui sont dans le noir et qui pourtant sont vraiment intimes avec elle, et elle le ressent très fort à ce moment-là, et eux le ressentent aussi. Et comme le dit très bien Choule, il montre très bien comment la personne qui a des rapports privés avec cette personne-là qui est sur scène à ce moment-là est comme exclue à ce moment-là. Il y a une phrase très belle aussi où il dit « J'ai peur avant, j'ai peur pendant, et quelquefois je voudrais que ce soit fini. »
Oh.
Je n'aime pas tellement le roman, dans tous les cas. Je n'aime pas l'idée de personnage, je n'aime pas l'idée du monde, l'univers romanesque d'un auteur, bien entendu au sens du 19e siècle, mais même l'univers romanesque, même un auteur que j'adore, bien entendu comme Marcel Proust, c'est quelque chose qui est un peu éloigné de moi, un univers qui appartient à un auteur, même la notion d'auteur, si l'on veut. Ce qui me stimule, ce qui m'agrée, c'est la notion plutôt de ce qui est, de ce qui est trouvé, de l'objet trouvé. C'est-à-dire quelque chose qui tout de suite n'appartient pas à l'auteur, qui certes est, éveille des résonances chez lui, c'est pas n'importe quel objet trouvé bien sûr. Quand je dis objet trouvé, c'est Marcel Duchamp, c'est la peinture pop américaine, Andy Warhol, le collage, c'est bien entendu le peintre que je place au-dessus de tout, qui est, à vrai dire même, comme Baudelaire avait trouvé son intercesseur dans Edgar Poe, moi c'est un autre Américain qui a été mon intercesseur, c'est Robert Rauschenberg, et bon, là, ce qui sont tous les petits-neveux, comme on sait, de Marcel Duchamp, et voilà, c'est la notion de hasard et d'objet qui arrive comme ça par hasard sur une toile chez Rauschenberg, au hasard et pas par hasard, c'est-à-dire qu'il provoque un certain hasard. C'est pas n'importe quels objets, bien sûr, qui, encore une fois, éviter à tout prix le pot pourri, l'éclatement trop grand, il y a quand même quelqu'un qui est là, il y a quand même une singularité qui est là, même si ensuite il s'agit de mettre le hasard dans la partie. Et là, idem, j'ai des objets trouvés là-dedans, dans ce livre. Je suis parti, non seulement ils y sont parce que je les ai raccordés, parce que le scénario de la vie s'y prêtait, mais même je suis souvent parti de ces objets trouvés pour écrire autour. Par exemple, il y a bien entendu ce manuscrit trouvé au pied du lit de mort de Fassbinder qui retrace en 18 étapes. La vie réelle ou fantasmée de sa femme, ancienne femme.
On a trouvé ça à côté du lit de mort de Rennes. On m'a tout de suite envoyé. Et comme c'était à l'époque, justement, bon, deux jours avant, j'avais appris sa mort, et je l'avais vu, j'avais vu Rana quelques jours avant sa mort, où il m'a encore dit reste là. Et les derniers temps, quand je l'ai vu, les derniers mois, je ne voulais pas rester, je ne voulais plus rester. Je commençais à lui mentir avec ma manière de lui parler parce qu'il était déjà très loin. Alors, cette papier me vient et je pense à l'époque, je n'étais pas dans l'état de comprendre ce que c'était. Je l'ai mis avec mes choses et j'ai plus repensé à ce papier, je ne l'ai pas bien réalisé. Et elle était avec des vieilleries de moi et aussi des vieilles photos, des choses comme ça. Mais je ne l'ai pas caché. Et j'ai cherché autre chose. Et bon, je laissais ça et Jean-Jacques a remarqué. Moi, j'ai peut-être mis comme ça, ah oui, c'est de Rennes et tout, mais je voulais pas le mettre dans ma conscience. C'était très étrange. Et là, il faut dire, les photos là avec mon père comme soldat pendant les nazis et cette feuille de Rennes avec des points sur ma vie. Ça n'aurait pas vu le jour sans Jean-Jacques. Et j'avais des malaises avec ça, mais je ne me suis pas confrontée. Ça, c'est grâce à Jean-Jacques, par son écriture, que j'ai regardé les choses, pas avant. Oui, c'est vrai. Et c'est Jean-Jacques, finalement, qui a fait le travail pour moi de regarder ça vis-à-vis. Et d'avoir aussi cette espèce de cruauté d'un vrai écrivain de me mettre en face.
Bon, mais bravo. Elle est moins cruelle que tout ce qui a apporté la vie à, et qui va apporter encore la vie à plein de monde. Et surtout aussi, souvent, à des poètes, et des écrivains, des compositeurs, des artistes. Alors moi, je peux bien confronter ça, c'est pas grave. Au contraire, merci.
Mais qui c'était ce garçon en blouson de cuir, seul, silencieux dans un coin, refermé sur lui-même, recroquevillé, tête dans les épaules, de dos, face au mur, près du comptoir, à la buvette du pauvre petit théâtre de fortune qui faisait aussi souvent cinéma. Il semblait capter de tout son corps ce qui était autour de lui, même derrière lui, perméable à tout, animal, et de façon démonstrative. On le sentait, l'entendait écouter. On aurait dit qu'il observait avec les oreilles, écouter avec les épaules. Oui, de tout son corps, de la tête aux pieds. J'étais intrigué. Même de dos, il avait l'air de mes pieds. Mutique. Ne perdait pas un seul de mes gestes. C'est un type, il dit qu'il veut faire des films. Et un beau jour, un après-midi, elle vivait alors avec un homme d'affaires depuis quelques mois, elle avait laissé tomber la scène. Une belle villa moderne dans les faubourgs chics de Munich, meubles en palissandre. Elle était en train, seule, de jouer du piano. On avait sonné. Le jeune garçon silencieux, au blouson, était là, timide, les paupières légèrement bridées, une charmante et fine cicatrice à la lèvre supérieure gauche, accompagnée de deux filles. Bonjour. Une petite voix douce, c'est plutôt une des filles qui avait parlé. Lui, sur le seuil, il regardait par terre ou par en dessous, et puis aussi vers l'intérieur de la villa. Les murs couverts de palissandre. La grande feuille blanche de la partition sur le piano, surtout, semblait l'intriguer, le fasciner. Comme si c'était une drôle de chose, tout un monde inconnu de lui. Il aimerait... Oui, je... J'aimerais... J'ai écrit une pièce... Katzelmacher, ça s'appelle. Vous êtes dedans. Vous êtes une chanteuse dans une petite ville, et la chanteuse d'ailleurs s'appelle Ingrid. Non, elle ne voulait pas. Merci. Non, vraiment, je ne crois pas. Enfin, je réfléchirai. Merci, c'est gentil. Un de ces jours, peut-être. Et 2 ans plus tard, il était assis à la table du petit déjeuner, après notre première nuit ensemble dans un lit. Il m'attendait avec, chose exceptionnelle pour lui dans la journée, une chemise blanche empesée, bien repassée. Je descendais les escaliers, j'entrais dans la pièce, je n'étais pas encore assise. Maintenant, il faut absolument qu'on se marie. Il disait ça sans lever les yeux.
L'amour sans trêve. Il rôde autour de mon cœur. D'amour, je rêve. Qu'il soit bonheur ou malheur, mon amour brille. Cette boule en facette qui tourne, tourne, retourne en ma tête. Comme 100 000 planètes. Ma pauvre mère en tricotant.
Oui, des rêves. Rêves, fantômes. Les rêves, je raconte plusieurs rêves dans le livre. Des rêves. J'aime bien cet aspect onirique. Évidemment, le fait que ce soit l'Allemagne m'a un peu facilité les choses. Les fantômes, le rêve, les contes germaniques, Grimm, Freud, Kleist, c'est un rêve du prince de Hombourg qui est très important. Et le fantastique, et Caligari et Nosferatu, l'expressionnisme allemand. D'accord, les fantômes, le rêve, cette chose un peu impalpable, comme ça, onirique. Et j'ai en effet raconté plusieurs rêves d'Ingrid Cavan. Souvenirs d'enfance, rêve, c'est quelqu'un qui a suivi une psychanalyse, qu'il a pour se guérir d'une terrible maladie de la peau qui l'avait rendue à moitié aveugle. Donc elle rêve, je raconte des rêves qu'elle a fait, qu'elle m'a relaté. Un rêve avec sa mère qui est représentée en sphinx dans le désert, qui se voyait en sphinx qui ne lui répondait pas. Le rêve qu'elle a fait à propos des camps de concentration, des camps de la mort, que je raconte, que bizarrement, cette histoire de Dachau, il semble-t-il, d'après les réactions là, les premières réactions des livres, personne semble s'intéresser à cette visite de Dachau que je raconte, au rêve qui s'ensuit qu'elle a fait, ni ensuite d'ailleurs tellement au fait que cette chose l'a un peu suivi, l'a un peu poursuivi. Il semblerait que ça, on ne pas tellement en parler, peut-être que je l'ai mal raconté. Et donc, il y a ce rêve qu'elle fait, où elle est avec sa mère, sa grand-mère, dans une salle de bain, qui salue, bref. Cette salle de bain est construite, oui, elles sont nues, et cette salle de bain, en fait, c'est, le fond de la salle de bain est obturé, et c'est, dans le rêve, c'est l'entrée d'un four. Donc, c'est le rêve, un rêve récurrent qui la suit. Bon, là... silence sur toute la ligne, alors que c'est un rêve assez stupéfiant. No reaction.
Philippe Solers.
Il y a d'abord le passage entre deux langues, de l'allemand au français, du français au corps allemand,